Je ne me suis jamais mariée. Je n'ai pas eu d'enfants. Mais je peux vous dire que mes enfants sont nombreux. Eh bien oui, parmi ceux et celles que je forme en tant que disciple de Jésus-Christ, j'en ai plus que vous. Si vous êtes marié, si vous avez 4, 5, 6 enfants, j'en ai plus que vous. Alors, mais... Amen, ma sœur. Alors, nous allons être de bons disciples et apprendre un peu de théologie biblique, si vous me permettez. Je sais que vous avez des petits pupitres là devant vous, si vous avez besoin d'écrire. Mais vous avez vu, parmi les 3 grandes religions monothéistes des temps modernes, le judaïsme, le christianisme, l'islam, seul le christianisme affirme le célibat. Je suis affirmée devant Dieu. Si vous êtes célibataire là, jamais marié comme moi, voilà, je vous invite à célébrer avec moi et même toute l'Église de célébrer avec moi que voilà, je suis honorée dans le royaume de Dieu. Je suis enfant du roi, des rois, et il a un grand sourire sur moi. Et moi, je suis en collaboration avec lui. Et nous avons beaucoup d'enfants ensemble, parce que c'est lui qui les fait naître, le Saint-Esprit, qui fait naître des enfants dans le royaume de Dieu. Et nous, nous sommes là comme des sages-femmes pour les recevoir et voilà, les former dans le royaume de Dieu et rester à côté des enfants. Et voilà. Et je peux vous dire que j'ai pleuré, oui, et je pleure aujourd'hui. Je prie toujours pour quelques enfants qui se sont éloignés. Mais voilà, donc, comme Paul, il a même dit, hein, il a enfanté beaucoup d'enfants. Et il se sentait comme, même il a utilisé le terme comme mère, et même Jésus, il a utilisé ces termes. Donc, voilà, c'est un style de vie qui est appréciable au sein de la communauté des croyants. C'est incroyable de dire une phrase comme ça. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de cela? Ben non. Je crois que non. Est-ce que c'est notre vécu au sein de nos communautés chrétiennes? Et c'est ça qui doit changer, je crois. Et comment est-ce que quelque chose change, une attitude, une manière de vivre? C'est en appliquant la vérité et en croyant la vérité et en la mettant en pratique et en la vivant. Le célibat a une importance théologique. Aujourd'hui, en faisant une réflexion théologique, nous allons voir un autre cliché. Le célibat vécu pour le royaume de Dieu. En fait, nous pouvons contribuer à enrichir la vie de l'Église. L'ensemble de l'Église peut profiter d'une telle réflexion biblique. En fait, que nous soyons mariés, divorcés, célibataires, veufs, veuves, voilà, puisqu'une compréhension plus claire d'une partie du corps du Christ produit simultanément une meilleure compréhension de l'ensemble. Et je crois que trop souvent, quand on parle du célibat, si ça se fait dans nos églises, ce sont des célibataires qui vont être mis à part et on leur parle du célibat. Mais en fait, c'est un sujet pour toute l'Église, parce qu'il faut que tout le monde comprenne ce que c'est que le célibat vécu au royaume de Dieu. Donc, quand nous considérons une théologie biblique, c'est-à-dire le parcours du développement d'un sujet de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est ça, une théologie biblique comprend toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors, quand on fait cela, nous devons prendre en compte l'histoire du salut qui se développe à travers des siècles. Nous comprenons qu'en Christ, tout est accompli. En fait, toutes les prophéties, tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, tout ce que nous voyons pour la préparation, on s'attendait à ce que le Messie arrive. Et alors, nous savons quand le Messie est arrivé, quand Christ est arrivé, voilà, tout a été accompli à la croix. Et voilà, il est mort pour nous, pour nos péchés. Et nous vivons nos vies en lui. Et là, il est ressuscité et il revient. Et nous nous attendons à ce qu'il revienne. Alors, nous sommes dans l'histoire et nous voyons comment le royaume de Dieu avance, avance, avance. Et nous vivons cela. Aujourd'hui, c'est une réalité. Alors, nous comprenons, en fait, que en Christ, nous avons tout. En fait, nous pouvons le comprendre. Mais est-ce que nous le vivons? J'aimerais recommander ce livre par mon collègue Barry Danilek. Et c'est écrit en français, « Le célibat réhabilité, signe du royaume qui vient ». Parce que c'est en fait ce que nous sommes. Nous sommes un signe du royaume qui vient. Parce qu'on va vers un autre ère, n'est-ce pas? Nous sommes en marche. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Et nous savons que notre maison se trouve dans un autre monde. Ce n'est pas ici. Et Jésus, il nous a montré le chemin. Vous pouvez me voir si ce livre vous intéresse, je peux vous donner des coordonnées. Parce que c'est beaucoup plus plein que ce que je peux faire là aujourd'hui. L'ancienne alliance est accomplie dans la nouvelle alliance. Nous le savons. En fait, nous ne faisons plus... En fait, nous n'étions pas là, mais en fait, il y a eu des sacrifices. Nous savons beaucoup de pratiques avant que Jésus ne vienne. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans l'ancienne alliance que nous ne pratiquons pas maintenant dans la nouvelle alliance. Le mariage et les enfants physiques étaient nécessaires pour les bénédictions de l'alliance du Sinaï. Vous pouvez voir dans l'ancienne alliance, le commandement a été « Soyez féconds et multipliez-vous ». Eh bien oui, il fallait avoir des enfants pour avoir un héritage, pour avoir un nom et pour avoir vraiment cette promesse que la vie allait continuer. Et aussi, on ne savait pas si on allait donner naissance à ce Messie au milieu du peuple d'Israël. Donc, c'était nécessaire, et même nous le savons en étudiant la Bible, que de ne pas être marié pour une femme était une honte. Beaucoup de femmes cherchaient à trouver un homme afin d'avoir un nom, afin d'avoir un héritage, afin d'avoir des enfants pour ne pas avoir honte. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Peut-être nous pouvons avoir des idées de l'ancienne alliance dans notre tête dans ce monde aujourd'hui. Et peut-être il faut qu'on soit renouvelé dans notre pensée. Dans la nouvelle alliance, le commandement est « Faites des disciples de toutes les nations ». Ça, c'est le nouveau commandement. Faites les disciples de toutes les nations. Le mariage et les enfants ne se rapportent plus aux bénédictions de la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, le mariage et les enfants restent un don et une bénédiction, ça c'est sûr. Mais la plénitude de la bénédiction de la Nouvelle Alliance vient par le Christ pour le croyant chrétien, plutôt que par la procréation. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Jusqu'à verset 14, on pourrait lire. Vous pouvez lire ces versets. À la lumière de la mort sacrificielle du Christ, la femme stérile chante maintenant, plutôt que pleure. En Ésaïe, chapitre 54, versets 1 à 3. Nous allons lire ces versets ensemble. Même dans la parole de Dieu, nous voyons dans le prophète Ésaïe ce qu'il annonce. « Pousse des cris de joie, toi qui était stérile. Oh là là! On ne dirait pas cela, n'est-ce pas? C'est contre la nature de dire cela, mais la parole de Dieu nous pousse à le dire. Toi qui n'enfantais pas, éclate en chant de joie. Crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de la tente et déploie largement l'étoile qui t'abrite. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité prendra possession de nations et peuplera des villes devenues solitaires. Alléluia! Quel encouragement! Je me rappelle quand j'ai lu ces versets, et c'était en France. Parce qu'en fait, en arrivant en France, j'avais 45 ans. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai 66 ans. Voilà. Je n'ai pas honte de le dire non plus. Le Seigneur est bon, hein? Alors, et bien sûr, comme n'importe quelle femme, qui ne veut pas avoir d'enfant? Quelle femme ne veut pas avoir d'enfant? Mais nous voulons tous. C'est la nature maternelle, je crois. Mais je savais, là, je priais, j'étais avec le Seigneur. Et je demandais au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que je ne vais jamais avoir d'enfant? Et je ne vais jamais oublier, hein, c'est très personnel ce que je partage avec vous, c'est très intime. Mais dans l'intimité avec le Seigneur, il m'a dit, mais Suzanne, voilà tes enfants. Et il m'a montré le groupe d'étudiants que j'avais à Chambéry, qui étaient dans l'église, et quelques-uns non, pas encore, parce que le groupe grandissait. Et on avait quelques-uns qui venaient. Et il m'a dit, voilà tes enfants, Suzanne. Et j'ai compris. Et le Seigneur m'a montré dans la parole de Dieu que moi, j'étais en train d'enfanter beaucoup plus d'enfants qu'en étant mariée. Alors, l'exemple de Jésus nous montre que la vie de célibataire n'est pas une vie vécue en dehors de la compagnie et de l'intimité. Jésus, il avait de la compagnie avec lui, hein, tout le temps, et même beaucoup plus. Hein. Il ne voulait pas toujours avoir la foule avec lui. Mais nous voyons dans la Bible que Jésus avait des relations intimes avec Marthe et Marie et Lazare. N'est-ce pas? Alors Jésus nous montre cela. Et dans l'Église, en étant célibataire, nous ne devons pas être seuls. Jamais. Nous avons la grande famille. En fait, nous sommes tous frères et sœurs. On le chante, on le dit. Mais est-ce qu'on le vit? C'est ça le défi. C'est ça le défi de le mettre en pratique. Alors, si on continue, comment recevons-nous les déclarations de Jésus sur le célibat et la famille? Regardons Luc chapitre 20, si vous avez vos Bibles. Commençons avec verset 27. Je ne sais pas si je l'ai mis là. Oui, ça c'est verset 34, on va arriver là. Quelques Sadducéens qui nient que les morts ressuscitent vinrent trouver Jésus. Ils lui posèrent la question suivante. « Maître, dans ses écrits, Moïse nous a laissé ce commandement. Si un homme vient à mourir en laissant une femme, mais pas d'enfant, son frère doit épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait sept frères. L'aîné se maria et il mourut sans laisser d'enfant. Le second et ainsi de suite. Jusqu'au septième moururent tous les sept sans avoir eu d'enfant. En fin de compte, la femme mourut elle aussi. Eh bien, cette femme à la résurrection, duquel des sept frères sera-t-elle? C'est la femme. Car ils l'ont tous eu pour épouse. » Quelle question! Mais les Sadducéens ne croyaient pas dans la résurrection. Alors, ils ont posé cette question pour un piège. Ils ont voulu piéger Jésus. Alors, Jésus, il répond. « Les hommes et les femmes de ce monde se marient. Mais les hommes et les femmes qui sont jugés dignes de se relever d'entre les morts et de vivre dans le monde à venir ne se marient pas. ils ne peuvent plus mourir. Ils sont parés aux anges. Ils sont fils de Dieu, car ils ont passé de la mort à la vie. Voilà. Le mariage est une institution pour cet âge. Et peut-être quelques-uns ici ont été mariés. Mais voilà, vous êtes veuve maintenant. Et vous êtes redevenue célibataire. Voilà, et cela, en fait, démontre que le mariage ne dure pas, même dans ce monde, parfois. Une des principales fonctions du mariage pour assurer la survie de l'espèce, hein, surtout dans l'Ancien Testament, quand il s'agit du peuple d'Israël, est inutile maintenant dans le siècle à venir. Les fils de la résurrection sont comme les anges, qui ne meurent pas et n'ont donc besoin ni du mariage, ni de la procréation. Le mariage ne dure que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dans les vœux, peut-être on l'a dit, quelques-unes ici. N'est-ce pas? Ça se dit dans les vœux. Mais qu'est-ce qui se passe à la mort? Il n'y a plus de mariage. C'est en tant que célibataire que nous nous tiendrons devant le trône de Dieu et vivrons éternellement avec lui. Nous serons tous et toutes comme des anges devant Dieu. Il n'y aura plus de mariage. Et alors, de vivre dans l'Église, je crois que c'est ça. Nous sommes entre deux âges, donc il y aura toujours le mariage et on va toujours avoir des enfants jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais dans l'Église, le Seigneur nous encourage à vivre comme une grande famille où lui, il est notre papa et nous sommes tous frères et sœurs. Regardons un autre échange de Jésus au sujet du divorce et le célibat. Matthieu chapitre 19. Des pharisiens, cette fois, c'était des pharisiens, s'approchèrent de Jésus avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, « Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque ?» Il leur répondit, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Mais les pharisiens objectèrent, pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle. Et Jésus répond, en versets 8 à 12, « Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le déclare, si un homme renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle et en épouse une autre, il commet une adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme par rapport à sa femme, il vaut mieux de ne pas se marier. » Jésus leur répondit, « Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement, mais seulement ceux à qui Dieu en donne les moyens. Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. Pour certains, c'est une impossibilité dès leur naissance. D'autres, les eunuques, en ont été rendus incapables par les hommes. D'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut accepter cet enseignement l'accepte. » Jésus affirme le célibat pour servir le royaume de Dieu. C'était surprenant pour les pharisiens d'entendre la réponse de Jésus. Ils avaient répondu d'une manière surprenante, mais Jésus, il a pris ce que les pharisiens avaient dit et il a utilisé cela pour un enseignement. Jésus utilise le terme « eunuque ». Dans l'Antiquité, ce terme veut dire « celui qui a mis de côté l'activité sexuelle pour des raisons de service dévoué et fidèle au roi ». Soit à partir d'une malformation congénitale ou à la suite de la castration physique. Ben, il y a eu des eunuques qui ont servi hein, dans l'Ancien Testament. Vous pouvez étudier l'histoire. À côté Daniel, par exemple, bon, ce n'est pas certain, mais certains théologiens pensent que Daniel peut-être était eunuque pour servir le roi. C'est intéressant hein, d'étudier ces choses. Mais en fait, c'est un exemple que dans l'Antiquité, ce terme, c'était pour le service dévoué. Comme il ne pouvait pas avoir d'enfant ou son propre dynastie, on pourrait lui faire confiance dans sa fidélité au monarque. De même, sans femme ou famille, l'eunuque a le temps supplémentaire pour le service à son roi et pourrait servir d'une manière entièrement dédiée. Jésus, il savait tout cela. Alors, il est allé un peu plus loin et il a parlé d'une troisième classe d'eunuque. Et l'eunuque pour le royaume est celui qui renonce volontairement au mariage et à la famille afin de conserver sa liberté de servir le Seigneur de quelque manière qu'il soit appelé à le faire. Et nous sommes tous appelés. Nous sommes toutes appelées. L'idée qu'il peut être avantageux de ne pas se marier est une idée profonde que tous ne peuvent pas s'approprier. Je vais répéter cela. L'idée qu'il peut être avantageux de ne pas se marier est une idée profonde que tous ne peuvent pas s'approprier. Jésus, il a dit que celui qui peut accepter cet enseignement, l'accepte. Je résume la logique de Jésus. La seule condition de célibataire n'est pourtant pas ce que Jésus entend par être eunuque pour le royaume. Un eunuque pour le royaume l'est volontairement dans le but de servir le roi et le royaume. Les eunuques volontaires sont ceux qui reconnaissent qu'ils pourront mieux accomplir la tâche que Dieu leur a confiée, quelle qu'elle soit, en demeurant célibataire, que ce soit pour une période limitée ou pour toute la vie. Je n'ai rien contre le mariage. Je crois que le mariage est magnifique. Et je suis allée à plusieurs mariages. Quand Sandrine a parlé des mariages ce matin et comment on est à la fête après, et puis on est mis avec plusieurs personnes qu'on ne connaît pas du tout. Et voilà, il faut se présenter. J'ai pensé à plusieurs mariages. Et j'aime les mariages. Et je me réjouis dans les mariages. Et si jamais... Le Seigneur, voilà, c'est volontaire, hein, mais si jamais il y a un homme, pour le royaume de Dieu, que le ministère que le Seigneur m'a donné, la vie qu'il m'a donnée, si ça pourrait être multiplié, pourquoi pas? Même à mon âge. Parce que ce n'est pas le but d'enfanter les enfants physiques, mais je veux enfanter beaucoup plus d'enfants spirituels. Nous voulons ce monde venir à Jésus, n'est-ce pas? Donc, moi, je crois personnellement, dans l'Église, nous avons besoin d'élever le célibataire. Ce n'est pas une honte d'être célibataire. Et en fait, j'enseigne, lève ta tête. Tu n'as rien. Pourquoi tu as honte? Ben, c'est quelque chose que nous devons changer avec la vérité de Christ, avec notre relation intime avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui me dit qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Alors, c'est à nous de changer cette attitude et cette manière de penser. La perspective de rester célibataire et de ne pas se marier est une vérité profonde, comme je viens de dire, que tous ne peuvent pas s'approprier. Nous maintenons en tension la logique de Jésus dans ces versets en admettant qu'il n'est pas avantageux pour tous de renoncer au mariage. Bien sûr que non. Ceux qui peuvent embrasser le célibat à cause du royaume devraient le faire. Il y a là un impératif à prendre au sérieux. Quand même, c'est un impératif de la part du Seigneur. La seule façon de trouver la réponse personnellement est de faire preuve de discernement pour soi-même. L'Église doit également exercer un tel discernement en encourageant les uns à se marier et en invitant les autres à s'approprier le défi de Jésus à cause du royaume. Nous vivons entre deux âges, comme je viens de vous le dire. Le célibataire est confirmé plutôt que condamné dans la Nouvelle Alliance. Parce qu'il est, ou elle est, une attestation au caractère suffisant du Christ pour la réception de la bénédiction de Dieu. Amen. C'est grâce à Christ que je suis bénie. Ce n'est pas parce que j'ai un mari et des enfants. Non. Je ne dois pas avoir cette preuve maintenant dans la Nouvelle Alliance. Je suis une nouvelle création en Christ. Et j'ai mon identité en lui. C'est lui qui m'a rachetée. C'est lui qui fait de moi une princesse dans le royaume de Dieu. C'est lui qui m'a donné les dons. C'est lui qui me roint afin que je puisse parler dans une autre langue. C'est un merveille pour moi d'être devant vous aujourd'hui. Et je dis merci au Seigneur parce qu'il est là. Il est là. Et je sens qu'il est là. Et c'est lui qui dirige tout ce que nous sommes en train de faire à cette conférence. Le célibataire sert comme un rappel que l'on entre dans l'Église, la famille du peuple de Dieu, par la renaissance spirituelle. On peut avoir beaucoup d'enfants dans une famille nucléaire, mais juste d'avoir les enfants quand on est chrétien ne fait pas des chrétiens. On le sait. Il n'y a pas de petits-enfants dans le royaume de Dieu. Vous me comprenez? Chacun doit venir à Christ. C'est par Christ que nous venons dans le royaume de Dieu. Bien sûr, c'est bien d'avoir des enfants. J'aime des enfants. Et parfois, les gens, ils sont surpris parce que je sais comment prendre soin des enfants. Mais ils me disent, mais Suzanne, tu t'es jamais mariée. Comment est-ce que tu sais prendre soin des enfants? Changer des couches, etc., etc. On ne doit pas être marié pour avoir cette capacité, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce qu'on fait, on coupe des choses comme cela et on met des gens de côté? Non, c'est pas bon. Avoir des gens célibataires et mariés dans l'Église désigne le fait que l'Église vit entre les âges. Ça, c'est sûr. Bien sûr, on est sauvé. On est en train d'être sauvé et on sera sauvé. Alors, on est en train, on n'est pas encore au ciel, donc on se marie toujours, il y a des enfants, jusqu'à ce que Jésus revienne nous prendre. Et puis, au ciel, il n'y aura plus de mariage. Eh bien, vous n'aurez plus votre petite famille avec vos enfants dans le coin, avec le jardin. Non, non, nous serons tous frères et sœurs, vous allez être frères et sœurs avec vos enfants. Les femmes mariées. Ah ben oui, c'est vrai, hein? C'est vrai. Je ne comprends pas tout, hein? Comment est-ce qu'on peut comprendre tout ce que Dieu il a préparé pour nous? Mais c'est magnifique. C'est la vérité de la parole de Dieu. C'est Jésus qui a parlé de cela. Les personnes mariées sont nécessaires parce que l'Église fait toujours partie de l'âge actuel. Les célibataires rappellent l'Église que l'âge spirituel a déjà été inauguré en Christ. C'est la raison pour laquelle nous devons honorer les célibataires. Il est temps de célébrer le fait que nous avons des célibataires au milieu de nous. Au lieu de les condamner, au lieu de les dire à chaque fois, mais wow, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'as pas trouvé, hein? Non, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est à nous de changer cette attitude. Et je veux lancer un défi à des mamans ici. Il ne faut pas s'attendre à ce que chaque enfant se marie. Peut-être vous avez des fils ou des filles qui vont servir le Seigneur en tant que célibataire, épanoui. Il n'y a rien de mal en cela. Alors peut-être, au lieu d'avoir cette idée du monde, hein, eh bien, c'est comme ça, hein, Disney, tout le monde se marie, happy ever after, n'est-ce pas? Nous vivons dans l'Église, pas dans ce. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et de plus en plus, avec la parole de Dieu, ma pensée est renouvelée. Et je dis, Seigneur, oui, enlève cela. Enlève cela. Et ça doit être enlevé de l'Église. Il est temps que l'Église soit vraiment l'Église. Et nous commençons à encourager, oui, bien sûr, le mariage et de vivre le bon mariage, le vrai mariage. Mais que cette pression pour se marier cesse. Afin que nous puissions avoir des relations d'amitié, de frères et sœurs dans l'Église et travailler côte à côte. Moi, j'ai peur parfois pour des gars qui entrent dans les églises. Parce qu'ils sont... Ah ben oui. Ben oui, moi, je dois vous le dire, c'est une pensée que j'ai. Parce qu'ils entrent et voilà, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans l'église. Et j'ai peur parfois. Parce qu'ils arrivent et ils ne peuvent pas être à l'aise. Parce qu'il est visé. Wow. Est-ce que c'est vrai? À mon âge, moi, je donne beaucoup de conseils aux célibataires, jeunes hommes et jeunes femmes. Et c'est vraiment magnifique, hein, parce que je peux avoir une relation comme ça, comme vous ne pouvez pas en avoir. Et même avec vos fils et vos filles, parfois. Mais il faut les laisser libres. Il faut cesser de mettre de la pression. Je connais des parents, mais c'est aussi parce qu'il y a eu ce manque d'enseignement. Et nous avons cette attente. Et on a honte parce que notre fils ou notre fille n'est pas marié. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous voulons avoir des petits-enfants. Donc, mais ça met beaucoup de pression. Et il peut y avoir même une fille qui est en train de servir le Seigneur, aller en mission. C'est magnifique! Qui a une vie épanouie, mais quand même, les parents, oh, qu'est-ce que nous avons fait? Oh, nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas une réussite dans notre vie parce que, voilà, notre fille ou notre fils n'est pas marié. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, c'est pas bon. Il faut être renouvelé dans notre pensée. C'est Dieu qui est Dieu. Nous ne pouvons pas avoir des idoles. Et ce n'est pas que je veux mettre le célibataire sur un piédestal, hein, pas du tout. Mais je crois quand même que nous avons mis le mariage, peut-être, sur un piédestal dans l'Église. Nous ne pouvons pas avoir des idoles. Que le Seigneur soit notre identité. Et si on se marie, si on reste célibataire, que Dieu soit glorifié dans notre vie. Amen. Nous avons un plus grand héritage, une plus grande mission. Le mariage et la procréation ne servent plus un rôle essentiel comme ils le faisaient dans l'ancien Israël. L'importance fondamentale de la progéniture dans l'Ancien Testament pointe vers la progéniture qui est Christ. Christ est maintenant le moyen par lequel Dieu bâtit le peuple de Dieu, un peuple qui durera pour l'éternité. Est-ce que vous êtes en Christ? Est-ce que vous êtes ancré en Christ? Est-ce que quand vous avez un besoin, vous êtes à genoux devant Christ? Il est notre source. Quand j'ai vécu mon célibat, les moments quand j'avais 20 ans et plus, oh, la sexualité, hein. Eh bien oui, ben, on veut exprimer cela, mais non, le Seigneur nous dit, eh ben, avoir une vie active, comme on dit dans le monde, eh bien, on est poussé. Et je crois que même dans nos églises, nous avons des jeunes qui sont influencés par ces pensées de ce monde. Non. Être une femme ou un homme ne veut pas dire qu'on doit avoir une vie active sexuelle. Même le Seigneur nous appelle à être célibataire. On n'a pas besoin d'avoir une vie active sexuelle pour être un homme ou une femme. Alors, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à vivre dans l'Église et honorer le mariage, parce que le mariage, c'est dans le mariage seulement que nous avons cette relation. Et c'est ce que nous enseignons. Je crois que dans notre monde, si nous commençons à vivre dans l'Église, le célibat et le mariage, et honorer tous les deux, les gens dans le monde, ils vont tourner la tête, ils vont dire, mais qui sont ces personnes-là? Ils sont épanouis, ils sont joyeux, si nous vivons joyeusement. Et c'est vraiment un privilège. Le Seigneur m'a mis à genoux à chaque fois que j'avais un besoin. Parce que oui, on a des hormones, on se développe, mais bon, il faut crier au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et puis, j'ai parlé avec d'autres qui souffraient. Oui, il faut en parler. Ce sont des sujets, on n'en parle pas dans l'Église, mais il faut en parler. Et il faut savoir comment prier, comment dire, voilà, on se développe, mais cela ne veut pas dire qu'on va agir comme cela dans le monde. Le Seigneur nous aide. Il nous aide à canaliser les choses. Et comme Jésus nous a mis devant nous, si nous pouvons le faire et développer dans ce domaine et honorer le Seigneur volontairement, nous pouvons servir le célibat, dans le célibat, le Seigneur et le royaume de Dieu. Les célibataires peuvent se réjouir dans un héritage et un nom qui est supérieur à l'héritage des enfants physiques. Ésaïe 56, 4 et 5. Car voici ce que l'Éternel déclare. À ceux qui sont eunuques, qui respecteront les sabbats que j'ai prescrits, qui choisiront de faire ce qui m'est agréable et qui s'attacheront à mon alliance, je réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle et un nom qui vaudront mieux pour eux que des filles, fils et des filles. Je leur accorderai un nom impérissable qui ne sera jamais rayé. Alléluia! Mais c'est la parole de Dieu. Ça me parle directement. Et ça peut nous parler directement, si on le laisse nous parler. Et comme nous avons entendu ce matin, et peut-être dans les autres ateliers, est-ce que Dieu est à sa place? Est-ce qu'il est Dieu? Ou est-ce que nous sommes en contrôle? Est-ce que moi, je veux contrôler ma vie? Est-ce que je veux que ce que moi, je veux? Ou est-ce que je dis, Seigneur, je veux suivre la volonté, ta volonté pour ma vie, Seigneur? Et s'il est possible, Seigneur, que je te serve en tant que célibataire le reste de ma vie, que je le fasse pour toi et que j'ai une multitude d'enfants. Alléluia, Seigneur. Ceux qui n'ont pas d'enfants peuvent trouver la légitime joie et satisfaction à l'occasion de cultiver une descendance spirituelle à travers le développement des disciples. Je crois qu'il est temps de tourner vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et de les former et d'avoir des disciples qui sont vraiment fermes et qui vont suivre le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Quelle est la mission principale de l'Église? Élever et nourrir les enfants spirituels en faisant des disciples. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les célibataires ont une occasion encore plus grande à se consacrer à la tâche du royaume que ceux qui sont distraits par les charges de la maison et la famille. C'est ce que Paul nous montre. Les célibataires sont des tangibles rappels d'un héritage futur anticipé de l'Église dans la nouvelle création. Les célibataires sont un rappel visible que le royaume de Dieu pointe vers une réalité qui se situe au-delà de mariage, famille et carrière. Merci Seigneur. Merci que tu honores le célibat, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu montres dans ta parole que tu honores, Seigneur. Dans ton Église, tu veux que nous nous honorions, Seigneur, les célibataires aussi bien que les mariés, et que nous vivions tous ensemble dans une famille qui édifie les uns les autres. Merci, Seigneur, pour le privilège de te connaître et de te donner ma vie. Amen. Alors, maintenant, j'aimerais donner le reste du temps pour des questions et un partage.
Alors, je vous remercie pour votre intervention. Moi, j'ai souvent des discussions avec les célibataires de mon assemblée. Vous dites qu'effectivement, il faut les laisser tranquilles. Mais quand ces célibataires m'expliquent leur souffrance, mm-hmm. ils vivent cela mal, comment peut-on, entre guillemets, les laisser tranquilles et vivre le célibat, tandis que pour eux-mêmes, c'est un poids.
Oui. Alors, je crois qu'il faut définir les raisons pour lesquelles c'est un poids. Voilà. Il faut parler, il faut avoir une bonne discussion pour vraiment déceler, en fait, ce qui est le problème. C'est vrai, souvent, je peux vous dire en général, dans l'église. En fait, c'est souvent la première question, hein, même à mon âge, quand j'entre dans une église, je discute un peu. Alors, et votre mari? Mais voilà, je dis non, je n'ai pas de mari, je suis célibataire, et je le dis comme ça. Alors, c'est autre chose pour ceux qui sont plus jeunes, c'est vrai. Mais je crois que dans notre atmosphère, dans notre église, nous devons avoir plus cette attitude d'être des sœurs et des frères entre nous et de ne pas nous éparpiller. Voilà, quand vous avez par exemple une soirée et vous invitez vos amis mariés, hein, faut inviter quelques célibataires, pourquoi pas. Mais oui, et des célibataires, quand vous faites de vos booms, hein, il faut inviter des mariés. Mais oui, il faut avoir un échange, il faut commencer à briser les murs. Ça, c'est une suggestion. Mais c'est vrai, quand on donne des conseils, je crois qu'il faut savoir exactement ce qui fait souffrir quelqu'un.
Ouais. En fait, je le sais, puisque je discute souvent avec elle. C'est plutôt des femmes.
Avec hein. elles, oui.
Parfois, c'est les choix. C'est les choix qui ont été faits et qu'elles subissent. Parfois, c'est que ce n'est pas arrivé. Parfois, elles ont donné leur vie tardivement au Seigneur et elles arrivent, il faut le dire, à 35 ans, il y a pas de jeunes hommes célibataires dans nos églises. Ils sont déjà pris. Il faut le dire. Hein. il faut le dire. Donc, du coup, comme vous l'avez si bien dit, quand il y a un jeune homme qui rentre, les femmes célibataires, tous les yeux sont braqués. Donc, en fait, si vous voulez, ce n'était pas leur choix initialement, mm-hmm. mais elles le subissent, en fait. Mm-hmm.
Moi, je comprends. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. C'est plutôt aussi parce qu'on n'a pas eu cet enseignement positif et tout le monde pense que le but, c'est le mariage. C'est vrai ou non? Moi, je le dis comme ça, hein, c'est simple. Je suis plus ou moins directe. C'est ça. Donc, oui, on grandit en tant que petite fille. Un jour, je vais me marier, je vais avoir des enfants, jouer avec des poupées, da-da-da-da. Et voilà, on a ça dès notre petite enfance, hein, n'est-ce pas? Et même, ça continue dans l'église. Et alors, quand on arrive dans l'église, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, hein, je crois que c'est vrai. Il y a un homme qui arrive dans l'église, il y a beaucoup plus de femmes. Et moi, j'ai peur parfois pour cet homme. Et moi, je veux le protéger. Ah ben oui! Mais c'est cette attitude qui doit... Ce n'est pas correct, ce n'est pas... C'est le péché, en fait. Nous devons vraiment voir des choses en face. C'est le péché, mes sœurs. Nous ne pouvons plus vivre comme cela dans l'Église. Et il faut que chacun trouve ses dons. C'est ça aussi. Il faut servir. Il faut avoir la possibilité, si on est femme, de servir dans l'Église pleinement et de trouver nos dons, d'avoir des petits groupes où nous pouvons épanouir. Voilà. D'autres questions?
Oui. Bonsoir.
Bonsoir.
Mais vous allez m'expliquer alors pourquoi la parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon pour un homme et une femme de rester seuls. Je ne comprends pas ce sens.
Parce que moi, ça ne fait pas longtemps que j'ai donné ma vie. J'ai 3 enfants. C'est vrai que je suis séparée. Je suis célibataire, bien dans mes baskets. Mais la parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon pour un homme et une femme de rester seuls. Quel est le sens de cette parole?
Ben, dans l'Église, nous ne sommes pas seuls. En fait, il faut... En Genèse, on parle du mariage, c'est vrai, mais en fait, quand on étudie l'hébreu, et bien, Rachel, elle peut me corriger si. Mais je crois que ça parle aussi de la communion. Nous devons avoir la communion toujours. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin des uns des autres. Nous sommes créés pour avoir une interface avec une autre personne. Et cela ne veut pas dire forcément qu'on se marie. Dans l'Ancien Testament, oui. Oui, et même, ça, c'était une honte pour des femmes de ne pas se marier. Mais moi, je trouve fascinant de voir Anne dans le temple, qui est veuve depuis 17 ans, je crois, je ne sais pas. Et puis, elle est là, et elle sert dans le temple. C'est un précurseur du célibat. Elle a donné sa vie volontairement à Jésus. Ah ben, sans le connaître. Elle attendait le Messie, et puis elle l'a vu. Elle a... Oh, magnifique! Mais elle s'est donnée au Seigneur. Ah. Ben, peut-être elle connaissait très bien la parole aussi. Hein? Mais oui, et c'est la raison pour laquelle dans l'Église, c'est la bonne communion. Ça doit être quelque chose. C'est tellement doux que les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'ils ont là-bas? Moi, je veux être avec eux. Et ils sont attirés. Oui. D'autres questions? Oui, il y en a. Le micro arrive.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
La question, au fait, c'est pas vraiment pour moi. C'est pour savoir comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est fait pour être pour rester célibataire. Parce qu'il y a des personnes, ils se disent. Bon, ouais, je pense que je suis faite pour rester comme ça, célibataire. Donc, comment savoir qu'on est faite pour rester, voilà, célibataire sans vraiment être... Ben, comme vous, par exemple, vous êtes célibataire, ça va pour l'instant. Donc, il y a... Non, ouais, donc c'est... En fait,
66 ans, hein, quand même. Mais quand on est célibataire, moi, je crois qu'on a la grâce de Dieu pour vivre le célibat. Et en fait, le Seigneur lance le défi à ceux qui sont célibataires. Il lance le défi de servir volontairement, de renoncer au mariage et d'avoir des enfants. Moi, je connais quelques missionnaires qui sont maintenant au ciel, mais je connais une femme qui m'a dit, Suzanne, avant de partir pour le champ missionnaire, un ami à moi m'a proposé le mariage. Et je lui ai dit non. Alors, parce qu'elle avait un appel dans sa vie. En fait, c'était l'appel de Dieu. C'était sa relation avec le Seigneur qui primait. Quelle est la relation qui prime? La différence entre quelqu'un qui est célibataire et quelqu'un qui est marié, c'est juste une personne, hein. C'est quand on est célibataire, on n'a pas de partenaire. Mais quand on est marié, on a un seul, une seule personne. Amen. Amen. Eh bien, dans le monde, être célibataire ne veut dire pas ça. Hein. Mais être célibataire dans le royaume de Dieu, oui, c'est un renoncement à l'activité sexuelle. Et c'est dur, c'est vrai, c'est dur, surtout dans le monde. Mais même quand on est jeune et on essaie, ben il faut qu'on enseigne. Ben oui, il faut garder les yeux, il faut garder les oreilles, il faut vivre pour le Seigneur, il faut servir le Seigneur, il faut faire des activités qui sont saines, ensemble.
Il faut aller à l'atelier de Rachel.
Eh bien, il y a beaucoup de choses à faire sans avoir une relation sexuelle. Le monde aujourd'hui pousse même nos petits de se mêler dans ce qui ne les concerne pas. Alors, ça me met en rage de voir cela. Mais oui, c'est à nous de, vraiment, la pornographie et tout. Ça nous incite à voir, de gratifier nos désirs. Mais non, le Seigneur nous montre clairement qu'une vie sexuelle saine, ça se passe dans le mariage, point barre. Alors, il faut que j'accepte cela. Il faut que j'accepte cela. C'est ça qui est dur. Mais quand on accepte la parole de Dieu, quand on accepte ses commandements, on est tranquille. Et c'est lui qui nous donne la grâce de le faire. Et si on a besoin de prier, de crier au Seigneur et d'avoir d'autres qui prient avec nous, mais nous avons la famille de Dieu.
Une question, madame, je voulais vous poser.
Oui.
Pourquoi les pasteurs ne prêchent pas ça? Que voilà, on Attends. Madame, excusez-moi,
oui, non.
Parce que c'est vrai, on est célibataire, mais au lieu de nous rabaisser et parler toujours des femmes mariées, des gens qui font pornographie, des choses comme ça, ils poussent les gens plus à se marier et nous, ils nous rabaissent. Ils doivent prêcher des choses plus, il faut creuser quand même.
Voilà.
C'est ça, il faut aller à la profondeur des choses,
ouais.
Au lieu de nous écraser.
Voilà.
Dire la vérité de Dieu, ce qui est écrit, voilà.
Eh bien, il faut élever la tête, et il faut ne pas avoir honte. Et puis, voilà, je ne sais pas comment faire. Je prie. Ben, il faut commencer quelque part. C'est la première fois. C'est le Seigneur qui a ouvert la porte afin qu'on en parle pour la première fois ici à l'événementiel. Moi, je crois que, quand même, j'ai des collègues, on est en train d'étudier. Il faut élever le célibat. Dans ce monde aujourd'hui, où tout le monde pense qu'il doit vivre en couple, deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, juste pourquoi ? Pour expérimenter la sexualité ? Non. Non, la parole de Dieu est claire et nette. Alors que nous puissions en parler, il faut en parler dans nos églises, et ben, c'est à nous de commencer à vivre. Ah oui, Rachel.
Je peux dire quelque chose ? Eh bien, au nom de tous les pasteurs qui vous ont mal parlé, je vous demande pardon. Parce que c'est vrai qu'on les rabaisse. Oui, c'est vrai. Alors, pardonnez-leur. Et priez pour eux, parce que vous voyez, ça bouge, il n'y a pas que... Suzanne en parle, c'est super. Bon travail, Suzanne. Et puis voilà, il faut avoir de la patience avec vos pasteurs, pardonnez-leur, et parce qu'ils ne savent ce qu'ils font.
Et vous pouvez acheter le livre de Barry Danilak, c'est en français. Hein? Je suggère de donner ça comme un cadeau à vos pasteurs. Le célibat réhabilité, signe du royaume qui vient. Et que peut-être même vous pouvez étudier, hein, voilà, dans l'église, faire un petit groupe. Je n'en sais rien comment ça se passe dans vos églises, mais il faut commencer, il faut lire vous-même et comprendre. Et ben voilà. Oui, encore des questions ?
Vous êtes célibataire ?
Oui, madame.
Je voudrais savoir comment vous gérez. Parce que quelquefois, ma fille, elle est célibataire.
Oui.
Et elle sert le Seigneur. Mais quelquefois, bon, ben, je perçois des sortes d'humeur. Je ne sais pas si c'est le célibat. Je ne sais pas par quelle boule à prendre. Alors, si vous pouvez me dire qu'elle me donne un tuyau là-dessus. Et j'ai aussi une autre question. Il y a quelques jours... Je parlais avec un frère qui me disait de prier parce qu'il aurait aimé que sa sœur se marie, parce qu'ils sont tous mariés et ont des enfants. Et moi, je lui ai dit, mais est-ce que tu as demandé à ta sœur, est-ce qu'elle veut se marier, si elle se sent bien? Parce qu'on ne pose pas de questions, mais on veut prier pour quelque chose. Alors moi, ça me dérange quelque part quand on me dit de prier pour quelque chose dont je ne connais pas...
Voilà. Je comprends, madame. Eh bien, je crois que j'aimerais faire connaissance avec votre fille. Et puis, on peut prendre un café ensemble, peut-être. Et pour l'autre question, je ne vois pas dans la Bible que le Seigneur promet le mariage. Ben, c'est un choix. On est libre de se marier. On est libre de ne pas se marier. Et le Seigneur nous lance le défi, comme je vous ai expliqué dans la parole de Dieu. Si, pour ceux qui peuvent de vivre volontairement le célibat. Alors, il a dit qu'il y en a qui ne peuvent pas le faire, mais bon, il y en a qui peuvent. Donc, je vous lance ce même défi. Mais voilà, se marier, ne pas se marier, ce n'est pas une promesse. Si une personne veut se marier, comme vous venez de dire, madame, si elle veut se marier, ben, qu'elle ait des amis, qu'elle sorte un peu, qu'elle voit un peu dans le groupe, et voilà.
Bonjour Suzanne.
Oui, merci. Bonjour.
Moi, je suis mariée,
oui.
Mais je suis venue encouragée par l'appel de ce matin,
oui.
Notamment pour apprendre aussi et pouvoir conseiller, répondre aux questions de nos jeunes femmes dans nos églises. Mm-hmm. Alors ma question, c'est pour être une femme mariée épanouie, est-ce qu'il ne faut pas avoir avant été une célibataire épanouie ?
Amen. Amen, ma sœur. Amen. Amen. Moi, je crois que nous devons avoir notre relation intime, le plus intime, la relation la plus intime que nous puissions avoir, c'est avec Jésus-Christ.
Il y a une question ici.
Oui. Oui.
C'est pas une question, c'est un témoignage. Je suis veuve depuis presque 3 ans et je suis heureuse, je sers le Seigneur et je suis beaucoup plus heureuse que certaines femmes mariées. Et je dirais même que certains maris de mes amis ou de personnes que je connais, s'ils étaient libres, j'en voudrais pas. Parce que je les vois malheureuses et moi je suis heureuse. Voilà.
Je faisais un séminaire avec les étudiants. Et il y avait beaucoup plus de gars dans le groupe. Hein. Moi, j'enseignais. Hein. Et il y avait un gars qui m'a dit, mais moi, je veux connaître l'intimité. On ne peut pas avoir de l'intimité sans le mariage. Mais j'ai dit non. Et j'ai dit, en fait, tu parles d'une intimité sexuelle. J'ai dit, regardez le monde. Hein. Ben, ce n'est pas ça. C'est une relation. Et c'est la culmination d'une relation qu'on a bâtie avec une femme, un homme avec une femme, et on se marie. Et puis, voilà. Alors, dans le monde aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Mais nous ne sommes pas du monde, nous sommes du royaume de Dieu. Et il est temps d'élever le mariage et de vivre le mariage comme cela, et avoir une relation intime avec le Seigneur, afin que le Seigneur soit vraiment sur le trône dans le mariage. C'est lui qui est le chef. Et on a une relation intime comme ça, voilà, beaucoup plus intime. Et on peut aimer notre mari, on peut se donner, et lui, il peut se donner à... Voilà. Oui, madame.
Alors, je n'ai pas une question, mais peut-être une suggestion.
Vous pouvez mettre le... Oui.
Dans mon église,
oui.
J'ai la chance d'avoir beaucoup de temps, puisque je suis retraitée, et j'ai beaucoup d'activités. J'assiste à toutes les réunions, bien entendu, mais en plus, j'ai pris des activités. Et lorsque nous nous retrouvons, le petit groupe, à travailler pour le Seigneur, ensuite, nous prenons un repas ensemble.
Oui.
Et ça crée des liens. Ça crée des liens et nous prions un moment ensemble et nous acceptons tout le monde. Si certaines personnes, même qui ne participent pas aux activités, mais qui veulent venir déjeuner avec nous, elles sont ou ils sont les bienvenus. Et on
Alléluia.
Est souvent 8, 10 à table. Et je trouve que c'est extraordinaire parce que je vivais mal mon célibat. Et le jour où j'ai décidé de me mettre vraiment au service du Seigneur, je suis épanouie.
Alléluia! Amen! 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 Je regarde l'heure.
Okay. Wow. Je te laisse choisir.
Oui? Je ne sais pas qui était.
Elles sont toutes levées d'un coup.
Moi, je voulais juste dire une remarque, mais je crois que la dame, elle l'a très bien dit. Et moi, je l'ai appris à mes dépens aussi dans mon histoire. C'est que ce que je retiens aujourd'hui, c'est que le célibat, c'est de l'exclusivité avec Dieu et pour Dieu. Et je pense qu'il faut voir le célibat de cette façon. Oui. Si on commence à le voir de cette façon, à se dire, c'est un temps mis à part pour Dieu, avec Dieu, pour faire son service, parce qu'une fois qu'on est marié, il ne faut pas se leurrer, s'il y a des enfants en bas âge, on ne fera jamais la même chose que
Amen.
Quand on est célibataire.
Amen. Amen, tout à fait.
Bonsoir.
Bonsoir.
Moi, je suis Salimata. Je suis maman de 3 enfants. C'est pour répondre à la maman qui est là-bas, qui a parlé tout à l'heure de sa fille qui a des sauts d'humeur. Je pense que je me sens concernée aussi. Quand on est une maman toute seule, j'ai 2 petits bouts de chou, des petits jumeaux qui vont avoir 6 ans bientôt. Donc, c'est vrai que parfois, quand on est fatigué, et qu'on est toute seule, qu'on n'a pas de famille, et qu'on est toute seule à gérer ses enfants, 24 heures sur 24, il y a un moment où on a des sauts d'humeur. Et parfois, je me fâche tellement contre mes enfants. Le soir, quand je les couche, je pleure. Je demande pardon en genou au Seigneur. Amen. De m'avoir mis ma colère sur mes enfants, alors qu'ils ne le méritent pas. Je sais que je les ai désirés. Et je les ai eus, excusez-moi, ça ne concerne plus. Je les ai eus par fécondation in vitro. Ça veut dire que j'ai voulu les avoir. Et c'est par la grâce du Seigneur que je les ai eus. Et quand on est tellement fatigué, et parfois on met la colère sur les enfants. Le côté célibat, je suis célibataire toute seule avec 3 enfants, une fille de 21 ans et des petits jumeaux. Quelles sont la prière? Quelle est la prière? Il y a des jours, on se dit, je suis célibataire, je suis toute seule avec mes enfants, ça va, je gère. Puis il y a des jours, on dit, mais pourquoi les autres, pourquoi pas moi? On en a parlé tout à l'heure. Pourquoi se dit, pourquoi les autres, pourquoi pas moi? Quelle est la prière adaptée? Quelle est la prière? Je suis jeune baptisée, je suis baptisée il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Et parfois, je suis perdue. Mm-hmm. Dans notre église, on a besoin de soutien. Qu'on vient nous voir, quand on parle les autres églises qui ne sont pas loin, peut-être il y a des personnes qui sont dans la même situation que nous, pour qu'on puisse s'exprimer entre nous, pour pouvoir communiquer. On a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de parler. Mm-hmm. Et je suis renfermée chez moi. Et quand je finis la prière le dimanche, je rentre chez moi, je suis toute seule avec mes enfants. Mm-hmm. Et il n'y a aucun moment où je trouve un moment pour m'exprimer avec mon pasteur ou avec qui que ce soit. Et c'est dur. Quelle est la prière?
Oui, oui. Ben, je crois que...
Excuse-moi, si c'est possible. Moi, j'aimerais intervenir parce que ça me touche beaucoup quand elle dit ça. Elle dit, je suis seule. On a parlé des pasteurs. Moi, je suis une jeune célibataire. Et je rends grâce à Dieu parce que je suis vraiment très heureuse dans mon célibat. Moi, j'ai même plutôt peur du mariage. Parce que je veux me marier, mais ça me fait peur. Surtout quand on dit, marie-toi. Plus on me force la main, plus... Et je m'excuse, mais moi, j'ai été victime d'abus très jeune. Depuis mon enfance. Donc, je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas eu d'adolescent, je n'ai pas eu. Et par la grâce de Dieu, un jour, j'ai comme ma vie qui a fait reset, je suis repartie à zéro avec. Et du coup, je n'ai pas envie de passer à une étape suivante sans être sûre que j'ai bien profité de celle-ci. Et parfois j'ai des pressions, j'aimerais avoir des enfants, j'aimerais. Et vous savez ce que je fais? Ben, je suis tatie dans l'église. Je prends soin. J'ai un couple dans l'église, ils ont eu des enfants, un deuxième enfant. C'est dur pour les couples. J'ai aimé la mère, je me suis approchée d'elle, je l'ai aidée, je l'ai soutenue. Il a fallu du temps, et puis un jour, je lui ai dit, bah, allez, tu me laisses les petits, et toi et ton mari, tu t'en vas. Vous avez besoin de ça. Ça évite de focaliser sur le célibat. On est notre célibat. Notre célibat, le point fort, c'est qu'on a du temps. Ce temps-là, on doit le mettre à disposition de nos sœurs, de celles qui sont fatiguées. J'entends la détresse d'une mère. Moi, ma mère, elle m'a élevée toute seule, avec mes 2 frères. On a besoin de soutien. Et c'est parce que quand je l'ai vue seule, j'ai dit, je veux être un soutien pour les autres. Tu as besoin de soutien, ma sœur.
Merci, Seigneur.
Et quand tu parles d'abus, je l'ai vécu aussi. Ouais. Et toute petite. Ouais. Alors, le Seigneur est
bon.
Il est bon.
Amen.
Il y a différents célibats, mais j'invite vraiment les femmes qui sont célibataires et qui souffrent seules et qui n'ont pas d'enfants, qui sont seules. Agissez pour celles qui sont seules avec des enfants, celles qui sont les couples qui viennent d'avoir des enfants. Nos couples sont attaqués dans les églises. On voit de plus en plus de divorces. Mettez votre célibat en action pour le royaume de Dieu. Et vous verrez Dieu ouvrir les portes pour le vôtre. En attendant votre bénédiction, soyez-en une pour les autres.
Amen.
C'est vraiment la solution, je pense aussi.
Voilà. Merci. Je crois qu'on a du temps pour quelques questions.
Non, je l'ai oublié, pardon.
Deux ou trois?
Oui, bonsoir. Moi, ça fait 10 ans à peu près que je suis célibataire. J'ai 4 enfants. Maintenant, ils sont adultes. Au début, je l'ai très, très, très mal vécu, mon célibat. Tous les jours, quand j'allais faire mes commissions, je me disais, ça se trouve, je vais retrouver un homme, parce que j'avais très, très peur d'être seule, en fait. Et puis, en fait, depuis que je suis chrétienne, eh bien, je ne sais pas, c'est une bénédiction. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, s'il te plaît, bon, bah maintenant, j'ai 53 ans, je pense que la sexualité, ce n'est pas un loisir. » Voilà. Donc, s'il te plaît, coupe-moi ce truc-là, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Stop. Et donc, en fait, ça marche. Parce que... C'est vrai, je vous jure, j'ai franchement, pourtant moi j'aimais les hommes, hein, étant plus jeune, les beaux hommes, tout ça, bon. Mais vraiment, ça m'a tout coupé. Oui. Je prie et maintenant le célibat, je n'ai plus peur de rien, je me sens forte. Mais bon, si le Seigneur m'amène à un homme, bon, voilà. Mais bon, moi je le vis bien. Hein, par contre, hein, je pars en vacances avec mes grands enfants. C'est cool. Hein, franchement, c'est top.
Bonsoir. Mais moi, c'est pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. Et peut-être que la sœur donnera une réponse par rapport à ça. Mais comment vous faites alors? Parce que on est des humains avant tout. Mais comment fait-on pour canaliser ce qui est en nous d'humain? C'est ma question. C'est ça. Comment on fait?
On fait de la table. Passez le micro à madame.
Tu danses, elles disent tous. Prends l'enregistrement de la session d'avant. Nous avons parlé de la sexualité et les célibataires. Voilà.
Ouais.
Tu veux encore des questions? Faire du sport, c'est vrai, franchement. Il y a dans ce que tu dis, ma sœur, c'est très intéressant. La sexualité, il y a pas, je vais pas vous refaire le, ne vous inquiétez pas, je vous refais pas le truc, mais il y a pas que l'aspect sexuel, il y a l'aspect physique, émotionnel, spirituel. Quand on compense avec les trois autres, physique, émotionnel, spirituel, ça marche. Donc physiquement, la danse, émotionnel, les amis, la famille de Dieu, exactement. Amen. On n'est pas tout seul dans l'église, tu l'as très bien dit, Suzanne, et spirituel, notre connexion avec Dieu. Le monde nous fait croire que la sexualité, c'est que Amen. Le sexe, pas du tout. Il y a 4 étapes, il y a 4 niveaux, etc. Voilà, c'est tout, je me tais.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, je suis Chantal, donc je suis aussi célibataire depuis un bon moment. Mais je vis pleinement ma foi. Donc, comme j'aime dire aux gens, quand on me demande si je suis mariée, je dis oui avec Jésus. Donc, du coup, ça me fait énormément plaisir. Donc, c'est ce que je veux simplement dire ici, c'est que dans nos églises, et ça, c'est depuis quand même un moment, et ça m'a rassurée d'entendre que le Seigneur n'a pas promis le mariage. Je veux bien qu'un frère ou qu'une sœur dise, voilà, j'aime tel ou j'aime, voilà, parce que tu es mon genre de femme. Mais qu'on s'appuie en disant, le Seigneur m'a montré que. Mais si le Seigneur t'a montré, qui me montre aussi à moi?
Amen. 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 Ouais, ouais.